With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'À Poil. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast. Je vous souhaite une délicieuse année 2022. Continuez à vous régaler, à sortir au restaurant et à écouter À Poil. Et place au podcast du jour avec l'attendrissant Joanne Barichas.
En général, ce qui me touche quand je mange la cuisine d'autres personnes, c'est quand je sens qu'ils y ont mis quelque chose de vraiment personnel. Et je me répète un peu, mais souvent, les plats les plus marquant, c'est les plats qui sont chargés d'une certaine émotion. Et je pense que c'est pas pour rien, par exemple, que la chorba, c'est quelque chose qui a plus touché Omer Moz. C'était pas forcément le plat le plus délicieux qu'on ait fait, ni l'entrée la plus technique, mais il y avait du sentiment. Et quand je vais au restaurant, généralement, quand il y a à la carte, je sais pas, ça c'est le plat que me faisait ma grand-mère, ou ça c'est le plat de ma maman, le plat de mon papa, le machin. Il y a toujours quand il y a une émotion particulière dans un plat, généralement, c'est ça qui me touche.
Plus connu sous le nom de Barry Bonite, pour ceux qui le suivent sur Instagram, Joanne Barichat s'est pas mal cherché avant de trouver sa voie. Un temps épicier chez Terroir d'Avenir, puis second de cuisine auprès de Manon Fleury au Mermoz, il a pris aujourd'hui son envol et commence à dessiner les contours de sa propre cuisine. Une cuisine méditerranéenne à consonance maghrébine et judéo-arabe pleine d'amour, qu'il sert pour quelques mois chez Moco Loco. Avec Joanne, nous avons parlé de grand-mère Rachel, d'alignement de planètes et d'un incroyable souvenir de sandwich. Bonne écoute. Bonjour Joanne.
Bonjour Julie.
Un des premiers plats que j'ai goûté de toi, c'était au Mermoz. C'était, je crois, une soupe un peu comme une chorba.
Ah bah c'était complètement la chorba, ouais.
Et Manon, on l'avait bien précisé. C'est le plat de Joanne.
Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que c'était un peu un... Je sais pas, un des moments un peu marquants dans mon apprentissage de cuisinier. Je pense que c'était l'une des premières fois que je proposais quelque chose d'un peu personnel au Mermoz. Manon, elle me laissait tout le temps essayer des trucs. Mais là, je pense que c'était l'une des premières fois me laisser essayer quelque chose vraiment de A à Z en mode, vas-y, je te fais confiance. Et c'était marrant de proposer ça dans le 8e arrondissement. Et c'était surtout marrant d'avoir des retours comme ça parce que les gens, ils étaient très heureux de manger de la chorba dans un bistrot français dans le 8e. Et ça me faisait bien marrer.
Les saveurs du Nord les saveurs d'Afrique du Nord, pardon, ont toujours été dans ta cuisine, finalement.
Ben, je suis en train de la définir et je crois que ça passe par là parce que c'est un peu ce que j'ai mangé avec mes grands-mères quand j'étais petit et ce qui m'a marqué et ce que j'essaie du coup de retransmettre.
C'est quelque chose qui te titille depuis un moment.
Oui, je pense que ça a été. Ça a été là depuis le début. En fait, avant que je commence la cuisine, je pense que il y a eu plusieurs petits déclics qui m'ont amené à prendre cette décision. Un des déclics, c'était j'étais chez ma mère un soir et elle m'a donné le bouquin Jérusalem de Tolenghi. Et je commençais à le feuilleter comme ça et je sais pas, genre, je regardais toutes les recettes et ça me donnait trop envie, je trouvais ça beau, ça me parlait, il y avait un truc qui était comme une espèce de passion qui était en train de naître en feuilletant les pages du livre. Et au début, je l'ai pas forcément connecté avec mon histoire personnelle. Je me disais juste, waouh, c'était. Puis en fait, avec le recul, je me rends compte que ce qui me parlait, c'était que c'était aussi en rapport avec mon héritage familial.
Tu me disais que ton papa est d'origine marocaine.
Ouais.
Ils cuisinaient beaucoup. En tout cas, tes grand-mères, tu parlais
ouais,
de tes grand-mères.
Mon père est juif d'origine marocaine et ma mère est juive algérienne. Et du coup, en fait, dans la tradition judéo-arabe, il y a beaucoup de choses qui se transmettent par la cuisine. Déjà, toutes les fêtes, tous les rites, c'est toujours autour d'un repas. Tous les rassemblements familiaux, quand on allait chez ma grand-mère ou chez que ce soit ma grand-mère maternelle ou paternelle, c'était toujours autour de la table. Et tout se passe autour de la table. Enfin, dans ma famille, ça s'est toujours passé comme ça, quoi.
Mais pas de là à vouloir en faire un métier. Enfin, bah, toi, c'était pas.
Non, pas du tout au début.
Tu cuisinais, tu mangeais surtout.
Ouais.
Visiblement.
Ouais, je mangeais beaucoup, beaucoup trop. parce que la satiété, c'est pas un concept judéo-arabe. Ça, on connaissait plutôt. Quand t'arrives à satiété, tu continues à manger pendant une heure et demie. Et voilà. Et après, tu t'affales sur le canapé. Et je pense qu'en fait, c'est marrant parce que ma grand-mère paternelle, Rachel, je l'entends encore engueuler mon grand-père parce qu'elle était, c'était une obsédée du produit. Donc elle disait, c'était mon grand-père qui allait faire le marché. Elle lui disait toujours, tu fais attention aux produits que t'achètes, tu me ramènes. Et elle disait toujours, je cuisine que des produits frais, pas de congelés, machin. Et c'est des choses que j'entendais un peu petit, mais moi bon, c'était en fond sonore, mais j'y prêtais pas vraiment attention. Et en fait, ben 20 ans plus tard, ce qui m'a amené à la cuisine, c'est les produits. C'est en fait quand je bossais dans la prod et je commençais à me faire un peu chier, je tournais un peu en rond, je cherchais à me reconvertir. Et puis du coup, c'est là où j'ai commencé à aller sur des marchés, puis aller chez Terroir d'Avenir, à faire des courses et à commencer à me passionner pour les produits. Et c'est là que j'ai refait le lien avec ma grand-mère et son obsession pour les produits.
Tu voulais faire quoi quand t'étais enfant ?
Je me rappelle pas d'avoir eu des rêves d'enfant, genre je veux être pompier ou archéologue.
Tu voulais pas faire de la prod audiovisuelle ?
Non, mais je pense que quand j'étais ado, je me rêvais un peu réalisateur ou musicien, comme tous les ados, quoi.
Maintenant, il rêve d'être chef cuisinier. Toi, c'était pas encore l'époque.
Non, c'est arrivé un peu sur le tard, ouais.
Du coup, t'as pas fait d'études de cuisine ?
J'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai fait une licence d'économie-gestion, mais en 5 ans. Tu vois, j'ai vraiment pris mon temps pour profiter deux fois de chaque année. Et c'était une époque un peu de
d'errance
et d'immaturité où j'étais plus j'étais flottant, quoi. Je m'occupais pas vraiment de mon avenir. Et puis un beau jour, je jouais un peu au poker à l'époque et j'ai rencontré le beau-frère d'un ami qui allait être mon futur patron et qui m'a dit ouais, j'ai monté une boîte de prod, je cherche des stagiaires en ce moment. Et puis du coup je me suis pointé un jour et j'ai commencé. J'ai dit ouais, voilà, je sais rien faire, est-ce que tu veux bien que je travaille pour toi? Il m'a pris. Et puis je pense que pour moi c'était sympa de mettre un pied dans la vie professionnelle, de sortir de ces années d'études un peu galères et tout machin. Je me suis pris au jeu. Il y avait un patron qui était prêt à me payer pour un travail, qui me trouvait compétent, qui me trouvait du potentiel et tout. Donc je me suis dit, ah cool, je vais rester ici. Et puis j'y suis resté 4-5 ans. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bon, il faut peut-être que je commence à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire et pas juste un truc qui m'est tombé sur le coin de la tête, quoi.
Et donc t'as commencé à t'intéresser à la cuisine, mais voilà, enfin à la cuisine, plutôt aux produits, comme tu disais.
Ouais. Je pense que ça a un peu, il y a eu plusieurs choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je pense que c'était un peu le moment de l'avènement de la bistronomie aussi, donc ça devenait, on entendait de plus en plus parler de restaurants. Il y avait le fooding qui était en train de prendre un peu plus de place. Et puis, du coup, j'allais tester des restos, je goûtais des trucs nouveaux, je découvrais des produits dont j'avais jamais entendu parler. Et puis j'adorais ça, ça a toujours été un plaisir dans la vie d'aller au restaurant. J'ai toujours adoré l'idée du restaurant. Je trouve qu'il y a rien de plus réconfortant qu'un dîner entre amis ou avec des gens qu'on aime. Et donc petit à petit, commencer comme ça à aller au resto. Et puis quand tu parles, tu lis des critiques et puis tu vois avec les légumes de chez Terroir d'Avenir machin et tout, et tu te dis tiens, c'est marrant, c'est quoi ce lieu. Et un jour j'ai débarqué rue du Nil et j'ai pété les plombs, en fait, quoi, parce qu'il y avait...
C'était Walt Disney.
Ouais,
Walt
c'était Disney une boutique de jouets, quoi, exactement, ouais. C'est un truc, genre, de ouf, je découvrais... Il y avait plein de produits que j'avais jamais vus, des légumes que je connaissais pas, des agrumes.
Ça t'a pas rebuté?
Non, au contraire, c'était genre, waouh, c'était un monde nouveau qui s'ouvrait, c'était super excitant, et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire, je veux apprendre à cuisiner tous ces trucs-là, quoi.
Et donc,
en fait, petit à petit, c'est devenu un rituel, ouais. En fait. Je courais à la sortie du bureau à 19h et je traçais pour aller rue du Nil, aller faire mes courses. Et je ramenais les produits chez moi. je les cuisinais assez mal, j'en jetais la moitié, mais j'étais genre, c'était super stimulé, je trouvais ça super excitant de découvrir tous ces trucs nouveaux.
Tu regardais des livres, tu lisais des livres, tu regardais des tutos.
Voilà, je regardais les Tokera, je regardais beaucoup les Tokera en fait, je m'en rappelle.
J'allais... Ah, ça devait être moi qui les faisais à l'époque peut-être.
Ouais, je me rappelle qu'il y avait écrit Julie Gerbet dans le générique. Ouais. Ouais, je regardais ça en fait, j'allais en bus au taf et je regardais ça dans le bus. Et c'était ma petite bouffée d'air avant d'aller au taf. Et
t'en as fait une, j'espère.
J'en ai fait une de ouais, ça aussi ça a été un truc. J'en ai fait depuis et c'est marrant parce que du coup quand tu passes de l'autre côté, tu te dis ah OK, j'ai fait un peu de chemin, c'est cool. Et donc à force d'aller chez Terroir tous les soirs machin, en fait, j'ai sympathisé avec Mathieu qui était avec qui j'ai bossé après au Mermoz, qui est Mathieu et Valentine qui bossaient avec nous en salle. Au Mermoz aussi. Et Mathieu, je lui ai dit un jour, ben, vous savez pas, tu sais pas s'il cherche quelqu'un. Et il m'a dit, ben, si, moi, je quitte mon job, donc il y a un poste à pourvoir. J'ai posé ma candidature et 2 semaines plus tard, j'ai eu une réponse de Samuel. Puis j'ai passé un entretien. Je pense que j'avais jamais passé d'entretien de ma vie ou très peu.
Et un là, entretien pour un poste.
J'étais directeur de production et j'ai passé un entretien pour être épicier. Et c'était chambé. Et finalement, voilà. Ils m'ont pris. Voilà. Et j'y suis resté un peu plus d'un an à faire le tour des saisons, à apprendre sur les produits, mais en plus il y avait la poissonnerie et la boucherie en face, donc.
T'as pas hésité? T'as pas eu un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Bizarrement, pas trop, hein. Non. J'ai plein de doutes dans la vie, mais.
Pas là-dessus.
J'ai pas le souvenir. J'ai certainement douté, et je vais pas romancer, mais j'ai pas le souvenir, ça m'a pas semblé si absurde que ça, en fait. Au contraire, c'était libérateur. Je me disais, ben voilà, cool. Là, tu fais un truc pour toi, vas-y, fais-toi confiance.
Et après, t'as eu envie de cuisiner tous ces beaux produits que t'avais découverts.
Bah, ce qui était génial à l'époque chez Terroir, c'est que c'était vraiment un petit épicentre de la restauration à Paris. Il n'y avait que cette boutique. Et du coup, il y avait Frenchy à côté. Il y avait tout le temps plein de cuisiniers en fait, qui débarquaient. Des grands chefs, comme des cuisiniers indépendants, comme les cuisiniers de la rue. Et du coup, bah, on pouvait échanger tout le temps. Et en plus, c'était pas un truc... eux aussi, ils demandaient des conseils sur les produits parce que parfois, ils les connaissaient pas. En interne, chez Terroir, ils nous faisaient plein aussi de communication sur les produits. Ils nous expliquaient comment c'était fait. Parfois, on rencontrait des producteurs. Donc, c'était vraiment une période hyper intéressante. Et même au contact des poissonniers. Moi, j'adorais traverser la rue, aller voir les poissonniers lever les poissons, aller voir à la boucherie comment ils travaillaient la viande. Et ça a été un moyen aussi très, très rapide de me familiariser avec le milieu et de faire plein de connaissances.
Et donc tu dis que tu vas passer ton CAP cuisine. Non, t'as passé le CAP ou pas?
Non, j'ai même pas passé le CAP. Je suis resté cancre quand même dans l'âme, donc ça me faisait plaisir de pas avoir trop de diplômes. J'ai fait un CQP, cuisine mode d'emploi.
En 3 semaines.
Franchement, ouais, je pense que c'est l'un des diplômes
express.
Et en fait, je l'ai fait à 30 ans, donc j'avais pas besoin, j'avais pas trop d'argent, j'avais pas d'argent de côté, parce que évidemment, ouais. Je m'étais organisé comme d'hab à la cancre. Et du coup, il fallait que je fasse une formation super bosses, rapide. Quoi. Et puis, je pense que j'avais un peu capté déjà que la formation, enfin, c'est comme le permis de conduire, que j'ai toujours pas d'ailleurs, mais t'apprends vraiment à conduire quand t'as le permis, et pas pendant la formation. Là, je pense que j'avais compris que ça se passe en cuisine pour apprendre. Donc, j'ai fait une formation de 2 mois. Et c'est là où je suis arrivé en stage chez Mokonauts. J'ai fait 1 mois de stage, plus 2-3 semaines d'extra, je ne me rappelle plus tellement. Et je pense que ça a été vraiment
le
déclic. Ouais, c'est au contact d'Omar et Moko, je pense que ça a un peu verrouillé la passion. Je me suis dit, OK, je suis sur la bonne voie. Moi, j'ai envie d'être comme ces gens. Et on parle le même langage et c'est cool.
Donc, t'as foncé après ça? Tu t'es plus posé de questions?
Bah non, ça, malheureusement, j'ai un cerveau qui marche un peu trop en continu tout le temps, mais je continue vraiment à me poser beaucoup trop de questions, mais ça m'a pas empêché d'avancer, au contraire, ça m'a propulsé.
En tout cas, ça t'a conforté dans l'idée que t'étais dans ton élément, dans la cuisine.
Ouais, et ça faisait du bien en fait de parler passion. Je pense que j'avais un peu une obsession du métier passion dans ma vingtaine. Et le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un comme Omar ou avec Moko, avec Omar, je le regardais plus cuisiner que je l'aidais vraiment, parce que de toute façon, il était trop fort et j'étais pas encore à la page. Mais on avait vraiment ces conversations où on partageait notre passion pour
les produits.
Ah, putain, ouais. La colatura, machin, je sais pas quels légumes, les fèves, les petits pois, les trucs. Et en plus, je suis arrivé là-bas à la fin du printemps, début été. Donc c'était vraiment, c'était parfait, quoi. Et ben ça m'a fait du bien de quand j'étais dans un peu bullshit job avant. C'était pas vraiment un bullshit job, mais c'était plus un c'était pas un métier.
C'était derrière un ordinateur.
Ouais. Après on faisait des tournages et tout, donc on était en mouvement. C'était quand même très intéressant. Et puis on était quand même au contact de milieux un peu artistiques et créatifs. Mais c'est des métiers dans lesquels genre tu mets beaucoup d'enjeux sur des trucs qui sont pas très importants. Tu vois, j'ai entendu des gens pleurer au téléphone. Parce qu'il y avait un billboard Beko pour un frigidaire qui allait pas passer sur énergie douce, tu vois. Et genre, tu te dis, ok, t'es peut-être pas obligé de mettre... Genre, c'est peut-être pas si grave, en fait. C'est peut-être pas obligé de mettre autant d'intensité pour un truc comme ça. Et du coup, là, le fait de parler de choses assez simples, de produits, de passion, de... Puis la cuisine, c'est quelque chose de simple, quoi. C'est des échanges simples. Et ça faisait vraiment du bien. C'est là où je me suis dit, ok.
C'est simple et en même temps, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Tu vois, le coup de feu... après ça dépend les restaurants mais c'est vrai que c'est quelque chose de naturel manger trois fois par jour de simple et en même temps où il peut y avoir beaucoup d'enjeux je divague complètement
ouais.
où il y a des personnes qui peuvent mettre beaucoup de
bah c'est un métier qui est ultra stressant et les chefs c'est pas toujours des personnes enfin c'est pas toujours facile de gérer son stress dans un service et oui il peut y avoir beaucoup d'intensité mais c'est sur des périodes un peu ramassées et souvent après la folie du service on se détend on souffle on se dit OK c'est bon j'avais juste un peu peur de m'écrouler mais en fait tout va bien c'est pas grave.
J'avais peur de rater la cuisson de mes petits pois, mais
j'avais
tout
peur
va
de me laisser ensevelir par le flot de bons qui arrive, mais en fait, ça va, on a survécu.
Donc après Mokonuts, tu fais quoi?
Après Mokonuts, j'ai pris une très courte pause parce qu'il fallait, je pense, un peu. En fait, au début, j'avais un peu, tu vois, ce truc où j'y allais, mais j'y allais pas vraiment.
Mais oui, j'avais un souvenir de ça où. J'avais l'impression que même quand t'étais au Mermoz, à tout moment, tu pouvais repartir.
Ouais, c'est vrai que j'avais besoin de garder toujours un petit pied dehors, tu vois, au cas où. Mais parce que je pense que j'avais un peu peur aussi au début du rythme et de l'intensité et de l'engagement que ça représentait. Mais c'était un peu paradoxal parce que c'était exactement pour cet engagement que j'avais choisi un métier de passion. Donc après Mokonuts, petite pause. Et il y a Jane, l'ancienne patronne du Yard, qui était un peu en train de vendre le yard en fait, mais qui avait encore son chef historique et qui m'a dit est-ce que tu veux venir bosser et je me suis retrouvé donc à bosser avec Nye qui était le chef du yard depuis plusieurs années, qui était un anglais avec un accent à couper au couteau, je comprenais, j'ai mis une semaine à comprendre ce qu'il me disait, j'ai énormément appris parce que ça faisait genre, c'était un peu la première fois, déjà c'est le premier CDI que j'ai dû signer dans une cuisine quoi, et c'est la première fois que j'avais un poste, donc il y avait le chef et moi, et donc en fait il m'a tout de suite donné énormément de responsabilités. Et du coup, j'ai fait des trucs catastrophiques, j'ai fait des trucs pas trop mal, mais en fait, le fait de pas avoir le choix et d'être constamment dans la merde, ben, t'avances parce que, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, ça m'a fait, genre, un peu grandir et je pense que ça m'a fait un peu sauter
dans la douleur.
Un peu dans la douleur, ouais, mais de toute façon, les deux, trois premières années, l'apprentissage en cuisine, ça se passe rarement dans la douceur. Je pense que tout le monde a au moins, genre, une ou deux expériences un peu marquantes. Et puis, Manon est venue me voir en décembre. Et mais on a discuté, on se connaissait déjà, on avait déjà sympathisé et tout.
Donc à Terroir d'Avenir.
Exactement. Mais on n'avait jamais bossé ensemble et je sais pas pourquoi, mais on s'est dit ben tiens, je fais une ouverture de restaurant dans le 8e, ça va déjà être assez compliqué, mais est-ce que tu veux être mon second? Du coup, bah hell yeah, ouais, on y va.
Donc c'était parti pour un an.
Un an et demi, ouais, on a fait
un an et demi. Et pourquoi t'es parti?
Je pense que j'étais un peu arrivé au bout de l'énergie que j'avais à donner dans cette aventure-là.
T'es parti avant elle, hein? Un peu
ouais,
avant
juste
elle,
un
pas,
petit
bo-
peu,
pas beaucoup.
Six mois avant. Ouais. Six mois avant. Et je pense que à ce moment-là, j'avais déjà un peu envie de voir une autre cuisine, donc un peu plus m'orienter vers la cuisine méditerranéenne, même si ça veut un peu rien dire. Et voilà, et c'était tellement une belle aventure que j'avais pas envie d'y être et sans être capable d'y mettre l'énergie qu'il fallait, donc je pense que c'était le moment de partir. Mais ça reste, ouais, c'était.
T'as été vachement marqué, non, par.
Ouais.
Par cette expérience et par cette cuisine et par cette façon enfin cette façon de faire en globalité aussi, tout ce qu'elle englobe.
Ouais, complètement. Et puis maintenant, ça a été la première personne à prendre littéralement en charge ma formation, quoi. Elle m'a fait confiance et elle m'a, à partir du moment où elle m'a fait confiance, elle m'a jamais lâché et elle m'a poussé pour que je progresse et que je travaille de manière plus carrée et que j'avance. Elle, c'est vraiment un bélier, quoi. Donc elle lâche jamais l'affaire. Elle est tout le temps en train d'avancer. Elle est ultra résiliente. Elle est impressionnante elle est pugnace. Et elle est extrêmement généreuse, extrêmement créative. Et quand elle soutient quelqu'un, elle le soutient vraiment à fond. Donc moi, elle a vraiment pris à cœur de me former, de me faire progresser. Et ben, ça a marché. Hein.
Elle t'a fait éclore.
Exactement. Et tout en, je pense, en ayant la bonne dose de protection et en même temps de
exigence.
Coup de pied au cul, quoi. Ouais, parce qu'il fallait pas, moi, sinon... Bon, bref.
Mais ce que tu disais aussi, il y avait un moment, t'as ressenti le besoin de couper court, peut-être avec la cuisine, dans le sens où d'aller explorer aussi une autre cuisine et de couper le cordon.
Oui, je pense que c'était aussi une manière de m'émanciper un peu. Et puis, simplement de. Simplement de voir autre chose, d'autres manières de travailler, même si... Et puis, en fait, c'était super intéressant parce que aussi les expériences d'après m'ont permis... parce que le Mermoz, ça a été quand même dur pour moi par moment parce qu'il a fallu que je me mette à un niveau que j'avais pas du tout quand j'ai commencé.
Bah, t'avais à peine un an d'expérience en cuisine.
J'avais 3 mois d'expérience en cuisine. J'étais vraiment... J'avais le niveau d'un commis.
C'était couillu,
pas d'un chef
quand
de
même.
Partie.
Sa
de sa part, ouais. Très très, ouais, je sais pas, c'était inconscient. C'était inconscient, mais.
Non, pas si inconscient, mais.
Bon, en tout cas, elle a vu du potentiel en moi avant que moi j'en vois. Tu vois. Et c'était, ouais. Mais du coup, ça a été dur parce qu'il a fallu compenser mon manque de technique et d'efficacité par des heures et plus d'efforts. Et pour Manon aussi, ça a été dur parce qu'il a fallu qu'elle compense mes manques à moi aussi. Donc. Forcément, aussi, au bout d'un an et demi, la relation de travail s'épuise un peu parce que ça a été très, 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 très intense. Et je pense que pour elle, c'était bien aussi qu'elle s'entoure d'autres profils. Donc voilà, c'était le bon moment. Et du coup, ça nous a permis aussi chacun de réévaluer après la qualité de l'expérience, quoi.
Donc après, t'es allé voir chez Hadar, donc le traiteur du passage des panoramas, traiteur Levantin.
Voilà. Avec un autre chef, Tamir, qui est dans un style très très différent, mais qui est un cuisinier exceptionnel, très très bon cuisinier aussi. Et donc là, pour moi, c'était un peu la parfaite continuité, parce que Tamir, il avait à la fois cette... j'allais dire cette obédience, c'est horrible. Il avait cette orientation très moyen-orientale, mais il s'intéressait à toute la cuisine du pourtour méditerranéen. Et en même temps, il avait cette formation, il était passé dans des grandes maisons, il avait bossé avec Adeline Grattard, il avait bossé chez Frenchy, il avait été chef chez Frenchy, donc il avait...
C'est un vrai cuisinier, même
c'est
si...
C'est un vrai cuisinier avec
même
une
si
technique...
Son restaurant, c'est un traiteur,
ah ouais, mais
c'est
c'était,
beaucoup plus que ouais, ouais. Ce qu'on peut imaginer.
Ouais, ouais, c'était des... Enfin bon, voilà, c'est vraiment un cuisinier d'un très 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 haut niveau, et donc pour moi, c'était la parfaite conjugaison entre... la continuité avec Manon et cette formation de cuisine française exigeante et de et technique et d'un très bon niveau, et à la fois se rapprocher un peu plus de mes goûts et de ce que j'avais envie de cuisiner moi plus tard, et voilà.
Et ensuite Penny Lane.
Et ensuite par Tamir et Tiffen, mes anciens boss chez Hadar, j'ai rencontré Raph qui cherchait un cuisinier pour ouvrir son projet. Et on a commencé comme ça, un peu sur un malentendu encore.
T'es parti faire des sandwichs et des plats chauds en boîte,
ouais.
Parce que c'était le confinement. C'était non, t'as
rêve.
Commencé peut-être.
Non, je crois qu'on a assis, on a dû ouvrir pendant le déconfinement, ça a dû durer un mois. On faisait, je pense, 12 clients par jour parce que personne nous connaissait. Et puis ça s'est emballé quand tous les restos autour de nous ont fermé et que les gens étaient bien contents de venir manger un sandwich parce que c'est tout ce qu'il y avait à manger.
Puis après, vous avez eu le prix Fooding aussi, donc ça
ouais.
A contribué à l'emballement médiatique.
Ouais, on a eu de la chance parce que le Fooding, ils avaient leur bureau juste à côté.
C'est vrai.
À l'époque.
Le boulevard.
On est mangé 2-3 fois par semaine. Ça a dû nous aider un peu.
En tout cas, ce qui est assez cool aussi, moi, je trouve, c'est que tu as élargi la cuisine méditerranéenne parisienne qui était assez cantonnée aux saveurs du Levant à autre chose.
Ouais. Chemin faisant, pareil, chez Penny Lane, j'ai fait un peu de... Je m'étais un peu inscrit dans la continuité de chez Hadar aussi, où on faisait de la cuisine un peu de toute la Méditerranée. Et en fait, à force d'entendre cuisine méditerranéenne partout, un peu mise à toutes les sauces, et de voir que tout le monde faisait du labneh, tout le monde faisait du houmous, tout le monde faisait du tarama. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a une sorte un peu de dilution d'identité, en fait, dans ce gloopy-boulga méditerranéen, ça veut plus rien dire. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, il faut que j'identifie un peu mieux la cuisine que j'ai envie de faire. Et la cuisine, ça a toujours été un moyen d'expression personnelle pour moi depuis le début, et aussi une recherche d'identité. Et donc, en fait, là, ça faisait du sens de reconnecter avec mon identité, et donc de faire une cuisine un peu plus nord-africaine.
Bon, en tout cas, je trouve que c'est cool en tant que client, ouais, de découvrir autre chose et de sortir, parce que, ouais, de sortir un peu du houmous et des plats et du chou-fleur rôti.
Ouais, qui font toujours plaisir,
Voilà. Plaisir, mais tu vois, d'avoir d'autres propositions et d'élargir un peu aussi le champ des possibles dans cette vaste cuisine méditerranéenne.
Ouais.
C'est intéressant.
Ouais, je trouve ça m'intéresse beaucoup.
J'ai lu ta carte d'ailleurs, chez ce que tu fais chez Boco Loco.
Ouais.
Donc ta nouvelle aventure.
Oui.
Et tu vois, il y avait plein de choses que je connaissais pas, des noms de plats que je connaissais pas.
Ouais.
Qui sont assez, que je pourrais pas prononcer.
Et je crois que moi-même, je pourrais pas les prononcer correctement.
C'est des plats de tes grands-mères, des plats de...
Ben, c'est un mélange, en fait. Je pense que ce qui me donne envie de cuisiner, c'est souvent le souvenir. Et du coup, ça part souvent d'un souvenir. Donc, c'est soit quelque chose que j'ai mangé, ben là, je reviens de 5 semaines au Maroc. Donc, j'ai ramené pas mal de souvenirs dans ma besace, valise. Donc, c'est soit des souvenirs de voyage, soit des souvenirs d'enfance, soit des choses que j'ai mangées, dans des fêtes, dans des...
T'as pas trop de livres de référence sur cette cuisine?
Il y en a quelques-uns, il y a des vieux livres. On m'en a offert des très jolis d'ailleurs. C'est une cuisine qui est quand même assez sous-représentée. Mais il y a Claudia Roden qui a sorti un livre, qui s'appelle Le Grand Livre de la Cuisine Juive, qui est magnifique parce qu'elle va explorer justement toute la diaspora, et donc elle va te parler de la cuisine des Juifs de Tunisie, des Juifs d'Europe de l'Est, des Juifs d'Inde, machin. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'interroger cette culture judéo-arabe et de voir justement les passerelles entre les communautés, et que ce soit une cuisine du lien. Et voilà, je trouve ça intéressant d'explorer ça, et c'est ce que je vais essayer de faire chez Moco Loco.
Ouais, du coup, tu as fait ta petite pause voyage au Maroc, et ouais, tu reviens depuis la semaine dernière, tu es chez Moco Loco. Mm-hmm. J'ai pas encore eu le temps de venir, mais t'es en train de définir un peu mieux aussi ton identité culinaire là-bas et de la structurer, si on peut dire ça.
Ce qui est absolument incroyable, c'est que j'ai eu beaucoup de chance quand Omar et Moco, ils m'ont proposé le job en juin dernier. Ils m'ont dit, sans même que je leur dise quoi que ce soit, moi j'avais déjà un peu cette idée en tête, ils m'ont dit, bon, nous, on aimerait bien que ce soit toi qui prenne la résidence après Erika. La seule condition qu'on t'impose, c'est que tu fasses de la cuisine nord-africaine. J'aurais dit, ok les gars, on y va, quoi. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux faire. Donc pour moi, c'est vraiment, tu vois, genre quand on dit les planètes s'alignent, c'est là, retravailler avec Omar et Moco, qui sont un peu genre mes restaurateurs de cœur à Paris depuis que j'ai commencé.
Papa et ta maman de...
Bah franchement, c'est un peu ça,
la restauration.
Quoi. Donc, ils m'ont toujours suivi de loin, que je suis venu souvent voir Omar quand j'avais des doutes, des questionnements sur ma carrière et sur les choix que je devais faire et tout. Donc que eux viennent me proposer ça, déjà, que eux ils pensent me proposer ça sans que je demande rien, c'était déjà une grosse reconnaissance et une gratification pour moi. Et qui en plus me propose de faire de la cuisine nord-africaine, je dis, mais oui, évidemment, bien sûr, on y va.
Mais toi, oui, c'est ce que tu voulais faire.
Oui, parce que si on parle de recherche d'identité, ben moi c'est ce que j'ai mangé quand j'étais petit, c'est ce qui
en tout cas ta cuisine, t'as envie de l'amener dans cette direction.
Ouais, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ce terrain, ouais, parce que il est sous-représenté et c'est fascinant. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire avec cette cuisine. En fait, pardon, mais je précise, mais on peut trouver de la cuisine judéo-arabe à Paris, ou même de la cuisine d'Afrique du Nord. Mais c'est souvent des vieilles institutions, c'est des institutions traditionnelles que j'adore et qui sont très bonne, mais voilà, la question que je me pose là, c'est un peu comment rafraîchir cette cuisine sans la dénaturer, juste comment la remettre à jour, tout en gardant ben, l'essence. Et je pense que ça va être un peu la question que je vais me poser pendant les mois qui arrivent. Là.
Et donc, comment t'as trouvé? Pas encore.
Non, pas encore. Encore. Je cherche.
Bon, ça devrait être possible.
Ouais. Peut-être.
Et comment tu... Enfin, est-ce que c'est facilement déclinable en version hiver? Tu me disais avant que tu commences par l'hiver, du coup...
Bon, je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes saisons déjà, donc il y a des produits qu'on trouve un peu plus facilement en Afrique du Nord toute l'année, comme les tomates, les aubergines, parfois même les petits pois, les fèves et tout, c'est des choses qui durent plus longtemps que chez nous, mais il y a des classiques d'hiver qui fonctionnent bien, il y a beaucoup de céréales, beaucoup de légumes secs... Donc il y a plein de trucs à faire, il faut juste un peu
se creuser la tête.
Ouais. Ouais.
Mais là, tu cuisines sans tomates, sans aubergines, sans tout
non,
ça.
Non, ouais. C'est le défi. Mais après, j'utilise quand je fais une base tomatée, j'utilise des tomates en conserve, ouais. Mais comme je le ferai dans un autre restaurant, ouais. Mais pas de triche.
Les produits continuent à guider ta cuisine.
Oui. Et encore plus maintenant parce que là, je retravaille dans la cuisine d'un amoureux du produit et du coup, je peux me le
lâcher.
Permettre.
Hein, Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui guide qu'est-ce qui guide tes assiettes d'autres?
Bah, je te dis, c'est beaucoup de souvenirs et c'est beaucoup l'envie de partager des plaisirs que j'ai pu prendre. Là, l'un des premiers sandwichs que j'ai mis à la carte, c'est le sandwich Makruda. C'est une prononciation, pardonnez-moi pour la prononciation un peu dégueu. C'est en fait, quand j'étais à Fès le mois dernier, c'est un peu un sandwich qu'on retrouve un peu dans toutes les grandes villes du Maroc. C'est un sandwich avec un beignet de pommes de terre, mais ça fait presque comme une pomme de terre soufflée en fait, et c'est servi dans du pain avec juste un œuf au plat et un petit piment grillé et une petite sauce harissa machin. Et la première fois que j'ai regardé ça, je me disais c'est bizarre, il y avait beaucoup de monde qui attendait devant une échoppe. Je me disais c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de gens, ça a l'air de bien plaire et tout. Donc je l'ai goûté et genre premier croc, quand t'arrives en fait sur la pomme de terre et l'œuf coulant et tout, et c'est genre c'est incroyable, c'est une simplicité incroyable, mais c'est délicieux quoi. Et je me suis dit c'est souvent ce genre de souvenir qui me donne envie de
réussir
de retranscrire.
Ouais. Et alors ça marche?
Écoute, bon, pour l'instant on l'a juste testé vendredi, mais
c'est vrai
parce que je l'ai fait goûter à l'équipe et Gaïa qui travaille avec moi en ce moment, elle a croqué dans le truc, elle a dit « Oh, c'est trop bon !» Tu vois, un truc presque de genre de surprise, genre je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Et c'est exactement ça que tu veux quand t'es cuisinier, c'est que les gens, ils prennent une petite balayette comme ça, de plaisir.
D'autant plus avec des produits hyper simples et...
Ouais, ça c'est toujours un truc qui me tient beaucoup à cœur. Moi je suis... Bon, c'est des cuisines très populaires, c'est des cuisines de maison, des cuisines de grand-mère, des cuisines simples. Et quand t'arrives à faire de la petite magie avec des produits aussi simples, ça fait... Ah, tu sais que t'es dans le vrai, ça fait plaisir.
Bon allez, petit aller-retour.
C'est parti.
Ton plat préféré de tous les temps?
Ah, c'est dur. Mon souvenir le plus incroyable, c'était un truc hyper simple. C'est ma grand-mère Rachel, encore une fois. J'étais avec mon cousin, on a été manger chez elle un jour. Elle nous a fait des pâtes à la sauce tomate. Elle a fait un truc en 3 secondes. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ces pâtes, elles étaient délicieuses et genre on pouvait plus s'arrêter de manger avec mon cousin. Je sais pas si c'est parce que sa casserole, elle était genre, culottée de viande et de préparation. Elle avait juste mis un oignon, de l'ail, 2-3 tomates. Elle nous avait fait un truc en chic-chac et c'était genre incroyablement délicieux.
Tu lui as demandé sa recette?
Jamais.
Ton livre de recettes fétiche?
Le grand livre de la cuisine juive de Claudia Roden.
Le dernier ingrédient découvert?
Je dirais l'huile d'argan, peut-être. Redécouvert, en tout cas. Je m'en étais jamais vraiment servi.
Le truc le plus bizarre que t'aies mangé?
Ah, c'était pas si bizarre.
C'était quoi?
Non, je pensais à la rate farcie, parce que c'est un truc...
La rate farcie, ouais. Ah ouais, quand même.
Mais j'aimerais bien faire ça chez Moko Loko.
La rate farcie?
Ouais.
T'as mangé ça où?
J'ai mangé ça à Fès. C'est une des spécialités faciles, mais pas que.
J'avais pas goûté ça.
c'est une panse farcie de plus de viande. Ça fait un espèce de gros boudin comme ça. Ça ressemble un peu à une porchetta ou je sais pas. Et tu la tranches.
Ah ouais, d'accord.
Tu la snacks et tu glisses ça dans un sandwich. Why not?
Tu sais, t'as les petites soupes d'escargot aussi.
Ah ouais, c'est peut-être ça l'ingrédient le plus bizarre que j'ai goûté récemment. C'est la soupe d'escargot, je crois que j'avais jamais mangé d'escargot de ma vie.
Ah ouais?
Ouais. Ça mange pas si mal. Ça ressemble au bulot un peu.
Ouais, ça ressemble au bulot. Mmh. Avec un petit goût terreux.
Le bouillon était très très bon pour le coup.
C'est ton dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Ton dernier meilleur repas ?
Ah putain, c'est pas facile ça. Il y en avait pas mal. Bah, c'était le sandwich macrouda à fesses. Ça, c'était le dernier.
Je croyais que t'allais dire le tien.
Et ouais, cet été, au Elsa aussi, le repas de Manon. C'était un très joli moment.
Une technique de cuisine découverte récemment ?
Bah, en fait, j'ai eu un petit cours particulier à Rabat avec une des femmes qui dirigeait un riad dans lequel j'ai dormi une ou deux nuits. Et elle m'a appris à faire des msemen, donc c'est une espèce de petite crêpe qui est aplatie, puis roulée comme un petit portefeuille et cuite à la poêle comme ça. Donc ça fait une espèce de petite crêpe feuilletée. Ça, c'est le dernier tricks que j'ai appris.
Le chef ou la chef à suivre ?
En ce moment ?
Ouais, jeune, enfin, ou tu vois, des petits jeunes que t'as découvert.
Je trouve que Valentin, il fait du chez Livingstone à Marseille. Il a l'air d'être. Je le suis sur Instagram et il a l'air d'être en pleine forme. Il a l'air inspiré et tu sais, ça se sent quand il y a quelqu'un qui est dans un bon moment de créativité. Et je sens que là, il est dans un. J'ai pas eu l'occasion d'aller y manger encore, mais je sens qu'il est en forme.
Ta musique pour cuisiner.
Waouh, ça c'est très large. Hein. Ça peut être. En vrai, faut que je te dise la vérité parce que je vais pas faire l'intello, mais moi je suis très très R&B et surtout j'ai des traditions en cuisine, donc je fais toujours le ménage sur Boyz II Men par exemple. Et je finis toujours ma journée sur une chanson de Mariah Carey. C'est important de dire la vérité.
T'as ta playlist sur Spotify?
Ouais, j'en ai plusieurs. Mais après c'est très éclectique. Non, j'écoute de tout.
Et un compte Insta que t'aimes suivre?
Il y a un compte que je kiffe, c'est le compte de. C'est un chef australien, je crois, qui s'appelle Josh Neeland. Son compte, c'est Mr. Neeland. Et c'est un malade du poisson. Et il a une manière. Son livre est exceptionnel. Et il a une manière exceptionnelle de cuisiner le poisson. Et son compte est juste trop beau, quoi. Ça donne trop envie. Tous ses posts, ça donne trop envie.
Tu t'es, j'allais dire, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois, mais est-ce que tu t'es déjà senti chef ? Tu te sens chef ?
Je pense que là, je pense que je me suis quand même senti chef chez Penny Lane, parce que Raph, il me laissait beaucoup de latitude sur la direction de la carte, et même si. En fait, je me sens pas vraiment chef dans le sens position de supériorité, parce que j'aime bien avoir quand même des choses assez. Des organisations assez horizontales dans ma manière de travailler. Mais je dirais que je me sens chef. Là, par exemple, chez Mokoloko, je vais me sentir chef parce que c'est à moi de veiller à la cohérence et à l'identité de la carte. Et ça, ben, c'est ça qui fait de moi un chef, plus que la compétence, la technique, l'autorité. Mais voilà, ce qui fait de quelqu'un un chef en cuisine, à mon avis, c'est qu'il a une vision et qu'il est chargé de transmettre cette vision et de garantir la cohérence d'un projet.
Et tu te présentes comment ?
Je suis cuisinier.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi, vraiment au sens large ?
Bah, en fait, la cuisine, je trouve que ça a plusieurs. Il y a plusieurs définitions. Il y a la cuisine telle qu'on la pratique dans les restaurants. Ça, c'est vraiment une manière de. Pour moi, c'est vraiment une manière de transmettre, quand même, de l'émotion, du souvenir. C'est une manière un peu de dire au monde qui on est. C'est une manière de se présenter et c'est une manière de partager un peu de sa culture ou un peu de ses goûts avec les gens. Et la cuisine aussi, en tant que lieu, je trouve que c'est intéressant parce que dans les maisons, c'est toujours des lieux un peu particuliers, la cuisine. Et il se passe toujours plein de choses dans la cuisine. C'est. Quand j'allais chez ma grand-mère petit, c'était toujours un peu l'agitation. Et en même temps, j'ai fait des colos quand j'étais plus jeune en tant qu'animateur. Et parfois, j'étais aide-cuisinier sur les colos. Et donc, j'ai passé ma journée en cuisine. Et c'était toujours l'endroit où les animateurs, ils venaient faire genre une micro-pause. Et c'était un peu leur confessionnal, tu vois. C'était un peu l'endroit où ils venaient décharger leurs émotions. Ils venaient prendre une petite respiration et puis ils repartaient. Donc, il y a quand même une symbole. Il y a un truc de très réconfortant dans la cuisine. C'est un peu un
refuge.
C'est un refuge. C'est souvent le cœur d'une maison.
Tu avais déjà fait de la cuisine avant alors?
Ouais, j'avais épluché des salades.
Ouais. Qu'est-ce qui t'émeut dans la cuisine?
En général, ce qui me touche quand je mange la cuisine d'autres personnes, c'est quand je sens qu'ils y ont mis quelque chose de vraiment personnel. Et je me répète un peu, mais souvent, les plats les plus marquants, c'est les plats qui sont chargés d'une certaine émotion. Et je pense que c'est pas pour rien, par exemple, que la chorba, c'est quelque chose qui a plus touché Omer Moz. C'était pas forcément le plat le plus délicieux qu'on ait fait, ni l'entrée la plus technique, mais il y avait du sentiment. Et quand je vais au restaurant, généralement, quand il y a à la carte, je sais pas, ça c'est le plat que me faisait ma grand-mère, ou ça c'est le plat de ma maman, le plat de mon papa, le machin. Il y a toujours une, quand il y a une émotion particulière dans un plat, généralement c'est ça qui me touche.
C'est toi qui avais fait la clémentine aussi?
Non, ça, alors.
Ah non, j'arrivais plus à me souvenir l'histoire.
Ça, c'était une vraie collaboration avec Manon. C'est que moi, j'étais revenu de voyage. J'étais justement revenu de Tel Aviv et j'avais mangé un basboussa là-bas. Ça m'avait mis une énorme claque. Et donc, en rentrant, j'ai dit, ah, faut qu'on essaye de faire ça. Donc ça, c'était la base du dessert. Et ensuite, j'avais parlé à Manon de la confiture de ma grand-mère Rachel. En fait, elle faisait des oranges. Ouais, décidément. Je parle que de mes grand-mères. C'est terrible. Elle faisait une confiture d'orange, que mon père adore d'ailleurs, et qui était une confiture avec l'orange entière, qui était cuite pendant des plombes et des plombes dans beaucoup, beaucoup de sucre. Et du coup, t'avais le fruit entier à la fin et tu mangeais ça à la cuillère, c'était juste incroyablement délicieux. Et donc, en partant de cette idée, Manon a eu l'idée de faire la mandarine confite.
Ouais.
Et on a travaillé ce dessert, évidemment, elle l'a pimpé.
C'était une collab,
exactement.
Moconuts, est-ce que ça reste ton modèle?
Omar, c'est définitivement un modèle pour moi parce que je trouve que c'est un cuisinier exceptionnel et tout ce qu'il cuisine me touche, me parle, me donne envie. Quand j'étais en stage chez Moconuts, je me rappelle que chaque jour je lisais la carte ou chaque jour on discutait de ce qu'on allait faire et il n'y avait jamais un truc où je me disais, oh, moi. Tout me donnait super envie. Donc ça, c'est un modèle pour moi parce que c'est vraiment un cuisinier de l'instant. Il fait toujours les choses un peu en dernière minute. Il a toujours une espèce d'inspiration incroyable. Et il y a quelque chose chez Moconuts dans la manière de recevoir les gens, très, j'allais dire familière, mais c'est presque plus familial.
Oui, familial.
Comme si t'arrivais vraiment chez eux. Et ça, c'est toujours quelque chose que je regarde comme une forme de modèle. Là où j'ai plus de mal à me projeter dans ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui repose énormément sur eux et sur leur personnalité, parce que Moconuts, c'est Omar et Moko, et même leur fille, limite. Je sais que c'est leur manière de fonctionner et que ça leur correspond parfaitement. Mais moi, je pense que si un jour j'ai envie de créer un restaurant, j'aurais peut-être du mal à me dire qu'il repose autant sur moi. Parce que j'aurais peut-être un peu peur de voir mettre d'autres facettes de ma personnalité sous cloche. Donc, ouais, il faut que j'arrive à créer un endroit où je peux avoir un peu de liberté aussi.
T'as envie de quoi maintenant, bon, là, t'es au début de l'aventure Moko Loco, donc c'est peut-être un peu difficile de se projeter, mais...
Bah là, j'ai envie d'essayer de m'éclater le plus possible et de commencer à définir, je peux dire, ma cuisine, parce que c'est de la cuisine de... C'est une cuisine qui est millénaire ou qui a des siècles en tout cas, mieux définir une identité en cuisine, ça c'est déjà, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, voir peut-être qu'après ça me donnera d'autres idées pour d'autres projets.
Et je reviens sur le prix Fooding, ça t'a fait quelque chose?
Bah ça m'a beaucoup touché quand même, je dois le dire. Ça m'a beaucoup ému parce que ça fait partie de ces moments symboliques dans une reconversion où tu te rappelles quelques années avant quand tu regardais ces gens qui faisaient des Tokera, qui recevaient des prix. Moi, je me rêvais un peu à leur place. Pour moi, c'était presque irréel, en fait. Le fait de recevoir un prix, je me disais, mais non, ça peut pas être pour moi, c'est bizarre, quoi. Et donc, ça m'a mis une bonne claque positive, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas, je pense pas que c'est changé. Enfin, je sais pas si ça a changé forcément quelque chose d'un point de vue extérieur sur le regard que les gens porte sur moi, et c'est pas forcément ce... Mais par contre, recevoir des messages d'anciens chefs ou de collègues de la restauration et tout ça, ça m'a beaucoup touché aussi, quoi.
Ça te met en lumière quand même, mais aujourd'hui ça te donne aussi un nom qui fait que tu vois, tu dans ton cheminement Les gens, ils sont curieux aussi de ce que tu fais après Penny Lane.
Ouais, et puis je pense que même si on court pas après la validation, c'est pas vraiment ça qui motive au jour le jour. Le fait d'être validé par ses pairs, parce que c'est quand même une forme de validation, ça fait plaisir, surtout quand on se reconvertit, quoi. Mmh. Ça fait quand même chaud au cœur.
Bon, allez, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une recette à nous donner? La fameuse recette, très simple. Qu'est-ce que tu fais à la maison?
Une recette très simple d'hiver. J'aurais tendance à... On va faire un lablabi. Tu connais le lablabi tunisien?
Non.
c'est une soupe. Une sorte de soupe slash bouillon. Pois chiche. Donc tu peux soit tremper tes pois chiches la veille, c'est un peu prévoyant, mais si t'es en galère le dimanche soir, tu peux acheter des pois chiches trempés. Et tu les recuis un peu avec leur eau de cuisson. Ou alors si t'as fait des pois chiches séchés, tu les cuis dans un volume d'eau. Et quand ils sont quasiment cuits, tu peux râper un oignon dedans, râper une gousse d'ail, saler, mettre du cumin, faire réduire un peu tout ça. Et en fait, le lablabi, c'est une soupe très simple où tu utilises le pain de la veille que tu émiettes dans ton assiette. Tu verses ton bouillon de pois chiche assaisonné par-dessus. Et ensuite, tu cuis un œuf dans sa coquille pendant une minute. Tu le casses dessus, donc ça fait un œuf très coulant. Tu mets du thon, du bon thon en boîte, une bonne harissa, des bonnes olives, quelques capres, un gros filet d'huile d'olive, pincée de cumin, trait de citron, et tu manges ça le dimanche soir et t'es content.
Trop bon.
Trop réconfortant.
Trop bon. Bah écoute, je vais essayer.
Tu me feras goûter.
Merci Johan.
Merci Julie.
Vous venez d'écouter Johan Barichas, épisode 7 de la saison 5. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous pour quelques mois encore chez Moco Loco, 74 rue de Charonne, Paris 11e. Vous pouvez évidemment le suivre sur Instagram sous le blaze Barry Bonite. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.